France Inter, le 6-9 du week-end. Delvaux.
Bonjour Barbara Stiegler.
Bonjour.
Philosophe, professeur de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous publiez « Il faut s'adapter » chez Gallimard dans la collection Essai NRF. Question ce matin sur les sources biologiques du néolibéralisme quand l'adaptation, la sélection, la compétition si chère à Darwin s'empare du champ politique. Jusqu'où devons-nous nous adapter à la globalisation? N'est-ce pas plutôt au libéralisme de s'adapter au genre humain? Et quel est le rôle de l'État dans cette affaire? C'est l'un des volets de votre étude. Comment s'adapter à son environnement, Barbara Stiegler? À partir de quand cette question, dans son acception politique, a commencé à émerger?
Alors, très clairement, à la deuxième moitié du 19e siècle, en fait, à la suite du choc provoqué par l'Origine des espèces de Darwin, la publication de l'Origine des espèces en 1859, tout le monde comprend très vite que ce que Darwin dit sur les plantes, les animaux, etc., concerne également un animal particulier,
l'homme,
qui est donc l'espèce humaine. Et tout le monde se pose les questions sur les conséquences de la pensée de Darwin sur l'humain. Et pas seulement sur l'humain individuel, mais évidemment sur les collectifs humains, et donc sur les conséquences morales, religieuses, politiques que l'on peut tirer de l'origine des espèces. Donc ça produit un choc culturel énorme dans la pensée de la deuxième moitié du 19e siècle, et il va y avoir des opérations intellectuelles plus ou moins honnêtes, plus ou moins réussies, pour tirer le darwinisme du côté notamment de la politique. Ouais. À partir de là, le terme clé de la pensée darwinienne, enfin l'un des termes clés, à savoir l'adaptation, tend à s'imposer petit à petit.
Oui, parce que dans adaptation, on entend donc mutation, on entend sélection, on entend compétition et évolution. C'est donc le darwinisme effectivement appliqué à la politique. Quels sont les liens que vous mettez au jour dans ce livre entre la biologie et le politique?
Ce qui m'a frappé, c'est que donc le vocabulaire de l'adaptation qui perdure aujourd'hui, évidemment, tout le monde l'entend. Il faut bien que nous nous adaptions, il faut qu'on s'adapte. Cette injonction, cet impératif. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il était précisément accompagné de tous les termes que vous venez de rappeler. Compétition, sélection, mutation, évolution. Or, ces termes-là ont été organisés et reliés entre eux par la théorie de l'évolution. Donc, clairement, on a affaire non pas à une vague métaphore, la métaphore de l'adaptation qui viendrait, je sais pas, de la machine, de la technique. Non, ça vient bien de cet univers-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est de prendre ça très au sérieux pour voir jusqu'à quel point cette importation de la pensée biologique dans le politique est robuste et intéressante et productrice de sens, et jusqu'à quel point elle peut aussi produire des effets dangereux.
Je fais une parenthèse, cela dit, Barbara Stiegler, quand les politiques s'emparent de la biologie au nom de l'évolution, ça donne tout de même quelques séquences, tristes séquences récentes, célèbres. C'est un terrain glissant, non?
C'est tout à fait important le rappel que vous faites ici. Ce qui m'a vraiment frappé et étonné, c'est que dans notre histoire qui a duré à peu près un siècle de l'adaptationnisme en politique et de la biologie en politique, on a été en quelque sorte traumatisé par ce qui s'est passé autour de la Seconde Guerre mondiale et ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, les années 30. Et cette pensée biologique en politique, elle a produit des choses très tout à fait catastrophiques qu'on peut réunir sous le nom de darwinisme social. Alors, d'un côté, un darwinisme social autoritaire qui a été défendu notamment par le nazisme et qui donc a rendu toute incursion du biologique dans le politique extrêmement angoissante, inquiétante et proscrite. Et de l'autre côté, un darwinisme social plus libéral, enfin même résolument libéral, qui nous dit en gros, laissons faire les processus pour que les plus aptes soient sélectionnés et les inaptes soient éliminés. Donc ces deux pensées, autoritaires d'un côté, libérales de l'autre, nous ont laissé des souvenirs cuisants. À partir de là, on ne pouvait que s'étonner qu'aujourd'hui encore perdure ce biologisme en politique, alors même qu'il est, si vous voulez, frappé c'est un tabou en réalité. Dans le champ intellectuel, il n'est pas autorisé de passer du politique au biologique et du biologique au politique. Ça ne se fait pas précisément du fait de cette histoire. Et pourtant, nous le faisons toujours dans la langue quotidienne. Les politiques le font. Nous-mêmes, nous disons, il faut bien que l'université s'adapte aux défis,
s'adapter, etc. De plus en plus vite, parce que là, l'histoire est devenue folle. C'est-à-dire que le processus s'accélère considérablement.
Oui,
ça, alors c'est quand même nouveau dans l'histoire humaine.
Oui, alors c'est nouveau, mais en même temps, ce thème de l'accélération liée à ce thème de l'adaptation, vous l'avez déjà dans les textes de la fin du 19e siècle dont je parlais tout à l'heure. Un philosophe comme Nietzsche a parfaitement identifié qu'il y avait une injonction, un impératif d'adaptation dans le champ social et politique, et qu'il y avait une accélération des rythmes. Voilà, c'est le thème du flux absolu, qu'il y avait une accélération des rythmes qui menaçait la vie elle-même.
Le néolibéralisme qui donc était théorisé, vous le rappelez dans votre livre, en 1938 à Paris par un essayiste politique du nom de Walter Lippmann. Quel pont, lui, dresse-t-il entre ce qu'il appelle le néolibéralisme et la théorie de l'évolution?
Alors, un point d'exactitude. Le néolibéralisme, en fait, c'est un terme qui est arrivé dans ce colloque Lippmann, là, vous avez tout à fait
Paris,
raison.
En 38.
En 38, un peu au hasard, qui a été plus ou moins contesté pendant le colloque, et qui s'est imposé ensuite. Lui, Lippmann, parle de nouveau libéralisme, et vous m'accorderez que les deux termes sont assez proches. Donc, on peut assez raisonnablement soutenir que Lippmann est l'un des théoriciens de la matrice du néolibéralisme.
C'est Michel Foucault, après, non?
Michel Foucault, absolument, vous avez raison, à la fin des années 70, a très très
Sauf
bien
Sauf que ces travaux ne sont apparus qu'il y a une quinzaine d'années.
C'est ça, ils ont été publiés, finalement, assez récemment, en 2004.
Mais de quel néolibéralisme parle-t-on? Parce que c'est un concept qui a beaucoup évolué avec, à travers les époques.
Alors déjà, le néolibéralisme, certains chercheurs l'ont très bien montré, et Foucault d'ailleurs le premier, est divers, il y a une diversité de courants. Mais moi, le courant qui m'a intéressé, vous comprenez pourquoi, c'est celui qui s'est appuyé sur
la dénonciation de l'État.
Alors, pas seulement. C'est celui qui s'est appuyé sur cette pensée biologique darwinienne pour repenser le libéralisme. C'est ça qui m'a intéressé, et ça précisément, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire, parce que ça n'était pas connu. On ne savait pas, en fait, qu'il y avait eu dans la matrice lippmannienne du néolibéralisme une référence constante au darwinisme. Alors même que Lippmann, c'est là où je suis désolée, les choses sont un peu compliquées, Lippmann critiquait le darwinisme social. Lippmann considérait que le darwinisme social, l'idée qu'il faut laisser les plus aptes écrabouiller les plus faibles, Lippmann refusait cette pensée-là, il la trouvait catastrophique. Donc il avait une vision qu'il pensait être progressiste, il voulait être un libéral, donc assumant une politique sociale, une politique d'éducation, et il s'est appuyé pour le faire sur un naturalisme darwinien revisité. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas connu. Donc j'ai pu comme ça découvrir, et ça a été absolument passionnant comme enquête, les sources darwiniennes, biologiques, évolutionnistes du nouveau libéralisme dans lequel nous sommes plongés. Et du même coup, je comprenais mieux pourquoi nous continuons à parler, alors même qu'on refuse absolument le darwinisme social, et bien en même temps, on continue à parler d'adaptation, de mutation, de sélection, mais c'est exactement ce que fait Lippmann.
Et de concurrence, on parle beaucoup de concurrence, c'est aussi l'affaire de l'Europe, la concurrence. À 3 semaines des élections européennes, cette compétition loyale, libre et consentie, non forcée, elle est dénoncée en ce moment par tous ceux qui vont aller voter et qui contestent les traités européens. Est-ce que par le vote, on peut résister à cette injonction de s'adapter, pour reprendre le titre de votre livre?
Ça, c'est une très très bonne question que vous posez là. Alors effectivement, la compétition libre et non faussée et consentie, avez-vous ajouté, l'est de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a une crise du consentement au projet néolibéral, ordolibéral en l'occurrence. On n'a pas le temps là d'expliquer, mais c'est l'une des suites de la pensée de Lippmann. C'est le néolibéralisme allemand, l'ordolibéralisme, qui a donc structuré la construction européenne. Et il se trouve que aujourd'hui, ce consentement au projet européen, eh ben, il est en crise. Hein. Et d'ailleurs, ça dépasse l'Europe, il faut le dire. Le consentement à une vision néolibérale de la société qui était soutenue aux États-Unis par une candidate comme Hillary Clinton était également en crise aux États-Unis. Donc ça n'est pas spécifique à l'Europe, même si l'Europe a une spécificité dans son rapport à la démocratie.
Il y a une crise environnementale, hein, ça n'aura échappé à personne. Et là, il y a des impératifs à cette crise. Et est-ce que la transformation néolibérale ne vient pas se fracasser là?
Alors deux choses. Je pense effectivement que s'il y a une crise du consentement qui a quand même perduré longtemps au projet européen et à cette compétition libre et non faussée dont il est question dans les traités, je pense que c'est très largement dû au fait que le néolibéralisme, qui a montré un cap qui n'était pas discutable et pas discuté, l'est dorénavant du fait de la crise environnementale. Pourquoi? Parce que le néolibéralisme nous demande d'aller vers toujours plus de mondialisation, une accélération des rythmes, une explosion de la mobilité qui génère, en fait, qui est en fait destructrice pour l'environnement. On a beau nous parler d'un capitalisme vert ou d'une... Personne n'y croit plus vraiment, à part ceux qui continuent à communiquer, à distiller des éléments de langage là-dessus plus personne n'y croit vraiment. Donc, à partir de là, cette crise environnementale, qui est une affaire de qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que s'adapter, qu'est-ce que c'est qu'évoluer, et ça fait complètement écho avec ce vocabulaire biologique. Eh bien, cette crise environnementale, elle disqualifie complètement l'idée que ce serait le bon cap vers lequel nous irions, puisque tout le monde se dit, si on suit ce cap, en fait, on va vers une catastrophe. Donc, perte d'autorité des gouvernants, fin du consentement des gouvernés, et du même coup, donc pas seulement en Europe, mais en Occident en général et ailleurs, et du même coup, ce qui se passe, c'est que la question que vous posez, c'est la question cruciale. Est-ce qu'on doit passer par le vote? Est-ce qu'on peut s'en tenir au vote pour contester ce consentement? On aurait tendance à penser qu'en démocratie, la démocratie se passe exclusivement, principalement et essentiellement à l'élection. En réalité, quand on revisite une pensée comme celle de l'adversaire de Lippmann dans mon livre, on se rend compte que la démocratie, ça se passe pas seulement au moment du vote, ça doit avoir lieu tout le temps, et il y a d'autres moyens de résister ou de défaire un consentement que de ne pas voter ou voter pour X ou Y.
À propos du consentement, c'est ça la question. Barbara Stiegler, est-ce qu'il y a des moyens de contraindre les populations à s'adapter à ces évolutions néolibérales, donc contre leur gré?
C'est un peu ce qui se passe, hein, à vrai dire. Le fait que le consentement soit en crise, le fait qu'il y ait une colère qui s'exprime sociale un peu partout dans les pays européens et ailleurs, c'est bien le signe que les gens se sentent forcés à faire des choses avec lesquelles ils sont en désaccord total. Donc, d'où le discours social et populaire maintenant, selon lequel on ne serait pas vraiment en fait en démocratie. On serait dans une démocratie qui nous force à faire des choses auxquelles on ne consent plus, mais qui continue à nous forcer à les faire. Donc, il y a une véritable crise de l'autorité des gouvernants, et du même coup, il y a une véritable crise de la démocratie.
Pour en revenir à votre livre, ce nouveau libéralisme fondé donc sur les épaules de Darwin, c'est une expression qu'on aime bien à France Inter, telle que l'a théorisé Walter Lippmann, ça va être donc contesté, vous l'avez évoqué, par un autre libéral américain, le philosophe John Dewey, qui, un peu comme le dira Keynes hein, aussi, je crois, estime que l'État doit avoir son mot à dire. Mais pour quelle raison? Précise.
Le rapport de Dewey à l'État est un peu complexe. Il critique l'État centralisé. Il essaie de réinventer complètement.
Une dose de participation de l'État tout de même.
Oui, pour lui, l'État, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de politique sans l'émergence d'un État. Mais ce qu'il appelle État ne correspond pas du tout à ce que nous, on imagine l'État en France. L'État, pour lui, son problème, c'est qu'il a tendance à se centraliser, à se bloquer. Donc l'idée, c'est que l'État, il doit être au service des publics. Et pour être au service des publics, il faut une décentralisation. Il faut un État complètement décentralisé, un État mobile qui se mette au service des problèmes des publics. Donc c'est une vision tout à fait différente de la vision traditionnelle de l'État et de son autorité et de sa souveraineté qui s'imposerait d'en haut. C'est en ce sens d'ailleurs que John Dewey est un véritable libéral, qui par ailleurs, lui aussi a un discours sur l'adaptation, l'évolution, et qui s'inspire de Darwin, qui considère qu'il faut tirer les conséquences sociales et politiques de la révolution darwinienne, mais qui va, et c'est là où sa pensée est passionnante, qui va s'opposer à Lippmann en permanence sur tous les termes. Qu'est-ce que c'est qu'évoluer? Pour Lippmann, c'est aller dans une direction qui est la mondialisation. Pour Dewey, c'est... Vous n'avez rien compris à Darwin. Darwin nous dit que l'évolution va dans tous les sens. Donc il n'y a aucune raison que ça aille uniquement dans le sens de la mondialisation. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que s'adapter? Pour Lippmann, c'est être une espèce de pâte molle passive. Voilà, les populations devraient passivement se plier aux exigences d'un milieu qu'on aurait décrété comme la mondialisation, et on devrait... Voilà, obéir à ses exigences et passivement s'adapter.
Et le débat entre les deux hommes va durer 25 ans.
Voilà, et pour Dewey, c'est s'adapter, c'est pas ça du tout. C'est avoir un rapport dynamique à son environnement, un rapport de tension et de résistance avec son environnement, et le transformer.
Est-ce que là-dessus, il n'y a pas aussi un débat droite-gauche, politiquement parlant? C'est-à-dire que la gauche serait en retard, fidèle à de vieux schémas, et que la droite, eh ben, elle serait plus audacieuse, plus expérimentale, et rendrait l'homme plus flexible. Est-ce qu'il y a cette idée-là?
Vous voulez dire chez Lippmann et Dewey?
Non, mais d'une manière générale, ce que vous pouvez en tirer à l'heure actuelle.
Ce que j'en tire à l'heure actuelle, c'est que aussi bien à droite, qu'à gauche, on a un faux discours de la mobilité, de la révolution, de la flexibilité. Mmh. Alors, majoritairement à droite, hein, c'est représenté par le néolibéralisme de droite, qui donc nous prône un discours de la révolution, de la flexibilité, de la mobilité permanente, qui en réalité, à mes yeux, et c'est ce que Dewey montre très bien, il le dit clairement, dissimule en fait une manière de figer toute chose. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent j'annonce une révolution, je vais tous vous rendre mobiles, mais qui en réalité fige la société et empêche la démocratie d'évoluer, empêche l'écologie de s'imposer, vous suivez mon regard. Donc ça c'est à droite. Et à gauche, parfois vous avez des gens qui naviguent entre la gauche et la droite, mais en fait ça n'a plus grande importance, vous avez une espèce de mimétisme par rapport à cette attitude. Vous voyez.
Donc ça veut dire que le courant néolibéraliste, c'est finalement celui qui est le plus répandu dans le monde aujourd'hui, dans la planète, sur la planète.
Alors c'est un mouvement qui a été hégémonique, on peut assez facilement dater. Hein. Donc la matrice théorique qu'on a vue, ça commence à s'élaborer dans les années 30, ça s'impose...
Après la crise de 29 donc aussi.
Voilà, c'est une suite de la crise de 29, c'est l'idée qu'il faut critiquer le libéralisme classique et le réinventer avec un État fort qui va intervenir sans cesse pour transformer les populations, etc. etc. Bon, il y a ce moment-là, mais ça c'est un moment, disons, théorique, et puis ensuite ça va s'imposer dans les politiques gouvernementales, on va dire, autour des années 70. Et c'est pour ça que Foucault, qui a très bien vu l'évolution...
Mais il voulait comprendre quoi ? Pourquoi Thatcher, ça marchait ? Pourquoi Reagan ? Pourquoi Valéry Giscard d'Estaing
ici en France ? Même si, par exemple, Thatcher, ça c'est compliqué, puisqu'il voit très bien que Thatcher, par exemple, c'est un ultralibéralisme qui ne colle pas avec le néolibéralisme assez étatiste de Lippmann, hein, où on a une intervention permanente, une politique sociale, etc. Bon. Mais je referme cette parenthèse pour dire qu'en gros, depuis la fin des années 70, le début des années 80, c'est devenue la pensée hégémonique, hein, politique. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'époque actuelle, et ça c'est assez nouveau, et c'est la suite de la crise environnementale au tournant des années 2000, en fait la crise environnementale elle est là depuis un siècle ou deux, mais la conscience de cette crise, là vraiment elle a éclaté après le passage au 21e siècle, hein, c'est que cette hégémonie est contestée de toutes parts. Et c'est ça qui rend l'époque très passionnante, aussi bien du côté de ce qu'on appelle plus ou moins bien les élites, intellectuels ou autres, que du côté des populations, donc ça traverse toutes les classes sociales et c'est ce qui rend notre époque politiquement très intéressante.
Eh bien, on lira ça dans votre livre, Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, essai sur un nouvel impératif politique, un livre qui interroge aussi bien notre histoire commune sur Terre que notre avenir, c'est un peu la conclusion aussi de ce livre, notre raison d'être dans un monde toujours nouveau, libéral, néolibéral. On n'a plus le temps de, j'aurais bien voulu vous entendre sur les conclusions, malheureusement, on a plus le temps, on lira votre bouquin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, paru chez Gallimard. Merci et bonne journée. Il est 8h38.